Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode et j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Plus ou moins 30 minutes pour faire le tour d'une série, d'une tendance, des séries d'hier et d'aujourd'hui et de demain, en compagnie de la Dream Team des critiques séries, de la critique, du débat, de la mauvaise foi, des coups de gueule et des coups de cœur, mais promis, garanti, sans spoiler.
Next one.
That's the last one.
Aujourd'hui, autour de la table d'un épisode des Jarrette, Marion Olité de Combini. Salut Marion.
Salut Renan.
Éric Bouche de Téléstar. Salut Éric.
Salut.
Et Charlotte Blum de Série Story sur OCS. Salut Charlotte.
Salut.
Alors, dans la vie, il faut faire des choix. Fromage ou dessert, Stone ou Beatles, Oasis ou Blur, papa ou maman, juilletiste ou haussien. Mais en matière de série, normalement, tout le monde vous laisse tranquille. Et bien, non pas à un épisode des Jarrette, puisque je vais vous demander, chers camarades, de choisir entre deux séries monumentales. Un choix épineux, forcément déchirant, qui va mettre nos critiques à rude épreuve, mais surtout un petit jeu théorique qui va surtout nous permettre de réviser nos jugements sur nos séries préférées. Je déclare donc ouvert la première battle des classiques. Pour commencer, un classico, comme on dit dans le foot, à ma droite, une bande d'amis new-yorkais qui se chamaillent, s'aiment et seront toujours là pour toi pendant 10 saisons de 1994 à 2004. Je veux bien sûr parler de Friends. À ma gauche, celle qu'on a longtemps présentée comme sa petite sœur, les aventures de Ted Mosby et de ses copains pour trouver l'amour dans la désormais culte How I Met Your Mother. Alors, chers critiques, je vous le demande, et c'est la première battle de cette émission, s'il ne fallait en garder qu'une, plutôt Friends ou How I Met Your Mother, que le débat commence. Alors, je vous écoute. Charlotte.
How I Met.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est plus libre, elle est plus grotesque. Enfin, toute l'histoire de la baffe qu'on va se prendre à un moment ou à un autre. Par exemple, Friends, il se serait jamais permis un truc comme ça. Pour le personnage de Robin, qui est complètement décalé, déstéréotypé, décomplexé. Et puis pour l'équilibre déséquilibré. Je trouve que 6 personnages, 3 mecs, 3 meufs, c'est vraiment super facile.
Donc tu viens pour démarrer ce podcast de dézinguer Friends, on est bien d'accord. La série que tout le monde adore.
Ouais.
Les autres, vous êtes d'accord ?
Moi, évidemment, non. Mais,
ça commence.
Ouais.
En fait, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Je comprends même pas pourquoi on fait ce débat là-dessus. C'est-à-dire qu'ils boxent carrément pas dans la même catégorie. C'est comme si sur un ring, il y avait Tyson d'un côté, puis on faisait venir Fabrice Benichou en
là,
face.
Là, tu m'as perdu, hein, complètement. C'est des joueurs de golf. C'est
Mike Tyson, c'est un boxeur. Et d'accord. Fabrice Benichou, c'était un gentil boxeur français.
Je pense avec Pierre Benichou, des grosses têtes, tout ça, c'est autre chose.
Va t'ira googliser.
C'est ça. Merci Eric. Donc plutôt Friends, toi.
Oui, ouais.
Mais pourquoi ?
Moi, je suis passé complètement à côté. Alors, faut avouer de How I Met Your Mother. J'ai essayé d'en regarder quelques-uns. En effet, j'ai trouvé que c'était une copie de Friends. Ça m'a moins touché pour beaucoup de choses. J'avais peut-être pas fait le deuil de Friends. J'ai pas envie de reprendre juste après sur autre chose. Et pour moi, c'est toujours resté une copie. Donc.
Marion est pas du tout.
Mais non, c'est pas vrai. En fait, How I Met Your Mother, comme Friends, c'est des séries qui sont à l'image de la société de l'époque aussi, vu que c'est des trentenaires qui vivent dans des appartements. Et en fait, je trouve que Friends, on en a récemment parlé, elle passe hyper mal l'épreuve du temps, quoi. Moi, je me suis remis à des marathons de Friends récemment, et effectivement, il y a des scènes qui sont gênantes, quoi. Grossophobes. Il y a des scènes qui sont, enfin. À la limite homophobe aussi. Enfin, quand tu regardes ça aujourd'hui, si tu l'as pas regardé quand t'avais 16 ans et que t'as pas une forte tendresse pour, tu te dis ok, le concept est cool.
Donc pour toi, la série passe pas le temps et le public qui la découvre aujourd'hui, Friends, est hors compétition, ça marche pas quoi.
Bah ça marche pas sur les blagues qui sont hors sociétales, on va dire quoi. Mm. Ça marche sur le personnage de Phoebe qui est très décalé, qui fonctionne encore aujourd'hui, mais ça marche beaucoup moins bien sur Ross. Pour moi, est le personnage du faux nice guy le plus énervant de toute l'histoire de la la télévision. Il est insupportable quand tu le revois maintenant.
Mais Ted Mosby, on a quand même envie de lui mettre des grosses tartes pendant toute la série, non?
Bah oui, mais Ted Mosby, je le trouve moins invasif avec ses meufs, notamment. Enfin, moi, Ross, la manière dont il essaie de monitorer Rachel, dont il
de
lui fait
monitorer.
Presque...
Alors, est-ce que... Pardon, là, je t'ai perdu.
Stop les anglicismes, oui, non, pardon. La manière dont il, à un moment donné dans la série, moi, je me souviens, parce que j'arrive bientôt à ce moment-là dans Friends, en fait, il y a Rachel qui commence à bien, à être heureuse dans son boulot, sachant qu'elle a galéré, que c'était plutôt une femme qui savait pas quoi faire de sa vie. Elle est heureuse, elle commence à être carriériste, et en fait, bah, Ross lui reproche tout le temps d'être là trop tard, d'arriver trop tard, de pas prendre soin de lui. Et au final, ils arrivent à rompre, je crois, la première fois à cause de ça. Bah, et oui, Ross, ça il est mauvais pour Rachel, il est toxique, ce mec. Bah,
c'est ça qui est intéressant, en effet, c'est qu'il est pas, gentil du tout, et ça c'est très bien montré, qu'il est complètement toxique pour elle, et c'est pour ça qu'elle le largue. Et là, il y a, en effet, c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est-à-dire que c'est pas des personnages lisses, tout gentils, etc. C'est pas le mec.
Mais c'est un trope, Ross. C'est le trope du mec friendzoné quand il était au lycée et qui du coup veut prendre une revanche sur les femmes et qui va réussir à se taper la belle queen bee du bal de promo, quoi. C'est un vieux trope du genre non mais t'inquiète pas, tu vas réussir à te la taper la meuf que tu voulais, quoi. Enfin moi je.
Est-ce que ça donnerait pas un peu d'espoir aux gens aussi finalement?
Oh mais qui a envie d'être Ross Geller? Mais personne.
Alors il se trouve que bon moi on m'a beaucoup comparé à Ross Geller dans
mais
ma vie.
Mais pourquoi que j'ai dit passé?
Parce que j'étais prof, que j'étais voilà et que j'étais chiant et que ça m'a aidé à survivre.
Oh my god, I'm sorry for you.
Mais justement, c'est ça qui le rend attachant. Il est pathétique, Ross.
Merci.
Non, puis il est égotique, ce mec. Oui. C'est-à-dire qu'il va te répéter toute la journée qu'il a un doctorat, mais enfin, ça va, on a compris.
Mais c'est ça
qui
est drôle.
Il est chiant. Mais c'est pas drôle, c'est chiant.
C'est drôle.
Je pense que franchement, ça nous a fait rire parce qu'on avait 20 piges et qu'on se rendait pas compte.
Moi, je suis pas d'accord.
On était beaucoup plus sympa.
Je l'ai revu. Je trouve que les sketchs, même sur les gros, parce que moi, ça me fait rire. Je suis désolé.
Alors, effectivement.
Je vais être politiquement incorrect, mais les blagues sur les gros dans Friends me font rire.
La question, c'est qu'effectivement, Friends, on y revient. Donc, c'est disponible sur Netflix maintenant. C'est quand même, je pense, c'est un des succès de Netflix aujourd'hui aussi. Beaucoup de gens la revoient. Et il y a beaucoup de gens, notamment autour de moi, qui revoient Friends grâce à Netflix. Est-ce que justement aussi, contrairement à How I Met Your Mother, est-ce qu'on a vraiment envie de se retaper, toi, How I Met Your Mother, quand même une narration plus feuilletonnante aussi? Est-ce que c'est pas ça le problème de How I Met Your Mother? Qu'on peut pas rentrer au milieu d'un n'importe quel épisode?
Plus feuilletonnant, non, parce qu'au final, bah, comme Marion dit, on a, tu vois, l'histoire d'amour entre Ross et Rachel, c'est un feuilleton. C'est pas moins
feuilletonnant. Oui, mais c'est moins fort que...
C'est moins fort, exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire.
Exactement.
Friend, c'est moins fort que How I Met Your Mother. Je pense que nous avons gagné 2 points pour
alors,
les filles.
Alors, je suis désolé, je vais abattre ma carte. Parlons de cette fin de How I Met Your Mother qui était totalement ratée, voire carrément rétrograde. Est-ce qu'on en parle?
Alors moi je l'ai pas trouvé rétrograde cette fin en fait. Moi j'ai trouvé au contraire dans Friends Ross et Rachel ils sont censés finir ensemble, ils finissent ensemble et en fait le twist de How I Met Your Mother on le trouve nul ou pas. Mais How I Met Your Mother c'est sur un mec qui est ultra romantique qui veut trouver the one etc. Et en fait toute la série c'est aussi de te dire que ben non il y a pas une the one en fait. Il y a des histoires d'amour qui se terminent, des fois qui reprennent. Finalement la mère de ses enfants c'est un de ses grands amours mais ce sera pas forcément celle donc avec qui il finit complètement la série. Et moi c'est ça que j'aime bien aussi dans cette série, elle est moins cucu et moins et elle te vend moins le truc trouve ta princesse charmante, trouve ton prince charmant que Friends. Et ça à mon avis c'est l'époque qui veut ça aussi, sachant que How I Met Your Mother a pris les choses un an après la fin de Friends. Donc la société elle évoluait et les femmes comme les hommes se sont aussi rendues compte.
Globalement c'est une des fins de série les plus détestées de toutes les fins de série, on est d'accord?
Moi c'est les fins de... ah non moi je suis pas, enfin moi je l'ai pas détesté cette fin
au moins
personnellement.
Conclut le truc. C'est déjà pas mal.
Enfin, la dernière saison, c'est quand même une catastrophe, on est d'accord.
C'est les dernières saisons. Le problème d'How I Met, si je dois me faire l'avocat du diable, c'est juste qu'effectivement, elle a peut-être un peu moins tenu la route sur les dernières saisons. How I Met s'est un peu effondrée. Je me souviens avoir écrit un papier sur le fait qu'elle faisait plus trop rire. Et elle a eu des running gags magiques pendant 5 saisons. Mais c'est vrai qu'à la fin, le Playboy Barney, mais c'est comme le Playboy Joey, quoi. Enfin,
mais est-ce que Friends ne tient pas plus la durée?
Ils ont essayé, ouais.
Friends tient un peu plus la durée quand même, non?
C'est-à-dire mais parce qu'à l'époque, les séries tenaient un peu plus la durée aussi. Enfin, on n'est plus construit pour regarder pendant 10 ans une série. C'est pas que How I Met, c'est juste, c'est fini en fait. I'm sorry, but... Non mais c'est fini, Friends aujourd'hui, tu peux pas tenir 10 fois 24 épisodes sur 6 potes à New York.
Bah t'as Big Bang Theory quand même qui est dans le genre...
Bah ouais, mais tu sais, il serait temps que ça s'arrête. Hein.
Oui, mais
et
ça,
elle
ça
se
ça
fait
tient.
Régulièrement critiquer pour un peu les mêmes raisons que Friends, de reproduire... Parce qu'en fait, le problème de ces sitcoms aussi, c'est que à chaque fois, les personnages sont caractérisés de manière ultra clichée. Ce qui fait que là, la société dans laquelle elle évolue, elle va à l'opposé de ça, où on veut plus être des clichés. Et on veut aussi regarder des comédies qui sont drôles, mais qui jouent pas toujours sur les mêmes ressorts faciles et un peu régressifs.
Le womanizer qui était Barney Stinson, aujourd'hui par exemple, ce personnage-là, on aurait du mal à le faire, on est d'accord.
Mais c'est vrai, oui.
Et il y a beaucoup beaucoup de gags au début qui marchaient, qui étaient très forts, qui ne marcheraient plus aujourd'hui.
Oui, parce que How I Met Your Mother, c'est comme Friends, c'est le reflet de son époque. Le côté narration déstructurée, série presque high concept, parce qu'elle commence en 2030 avec Ted qui va expliquer à ses enfants comment il a rencontré sa mère. Ça, c'est sûr que maintenant, ce serait même plus original. Derrière, il y a eu Very Battery. Enfin, en fait, ça a préfiguré après toute une période de ces séries ou de ces films un peu cool où tu trouves une chef dans une salle de bain et que tu demandes pendant tout l'épisode comment elle est arrivée là. Et c'était super cool à l'époque à Wamet, c'est sûr. Mais aujourd'hui, mais Friends non plus fonctionnerait pas tel quel si tu lances une série comme ça aujourd'hui.
Alors, je vais poser une question un peu plus compliquée. Si vous deviez rajouter un outsider à cette battle, quelqu'un qu'on n'aurait pas vu venir, qui pourrait battre et Friends et Matthew Moser, vous auriez une idée?
Ouais.
Ouais, vas-y.
New Girl.
Ouais, pourquoi?
Ben moi j'adore New Girl parce que c'est pareil, c'est quand même la vie d'une bande de colocs. Là on arrive à la saison 7, donc on se rapproche quand même un peu du temps de durée des deux autres. Et en fait New Girl joue beaucoup plus sur de l'humour absurde et elle passe beaucoup mieux le côté justement les blagues, c'est un peu gardé quand même de faire des blagues au niveau des minorités au niveau du corps etc. Enfin du coup elle est très drôle, elle est portée par une Zoé Deschanel et par des acteurs qui ont réussi à être aussi attachants que Friends, qui se posent des questions aussi sur parce que New Girl tourne aussi beaucoup autour du dating. Zoé Deschanel, c'est la Ted Mosby et de la rom-com, mais je trouve que personnage par exemple qui est le nouveau Barney dans New Girl, c'est Schmidt. Et en fait Schmidt il est un peu dragueur au début de la saison, il a différentes femmes et il a aussi un petit problème de masculinité un peu comme Barney où il veut montrer qu'il est trop fort, mais rapidement en fait il y a un background sur son personnage et il va être avec Sissy et il va complètement évoluer tout en restant très drôle. Je trouve que l'humour dans New Girl,
donc New Girl aurait appris de Friends et d'How I Met Your Mother pour résoudre tous les problèmes de tout ça.
Je pense
à une série qui s'appelle Happy Ending qui est un peu moins connue, qui était une série assez hilarante, assez improbable, sur une bande de potes vraiment à la Friends, sauf que tout l'humour était au quatrième degré, avec des décalages, de l'ironie en permanence, qui est une série vraiment qui a duré que trois saisons, et qui était une sorte d'antidote à la niaiserie un peu de How I Met Your Mother sur l'amour, l'antidote à On est tous copains pour la vie de Friends, et qui était une série un peu méchante, un peu joyeuse, avec des personnages extrêmement drôles. Et il y avait un acteur de New Girl, Damon Wayans Jr., qui était passé de Happy Endings, ensuite à New Girl. Un autre outsider, non, vous voyez.
Des comédies, il y en a beaucoup, des très bonnes. How I Met Your Mother, pourquoi pas, parmi ces comédies, mais c'est pas une comédie majeure qui a marqué son époque et qui a fait changer les choses.
C'est faux, mais bien sûr que si.
Je peux parler deux secondes.
tu balances comme ça tout d'un coup des punchlines, évidemment qu'on veut répondre.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Friends, il n'y aurait jamais eu How I Met Your Mother. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui ont marqué, Seinfeld a marqué son époque, il y a eu plein de trucs sur les stand-up après.
Donc toi, tu joues la carte, c'est la fondation, c'est la série originelle.
C'est une série majeure, c'est-à-dire que si dans tous les bouquins, il y aurait les 20 ou les 30 plus grandes séries de l'histoire, t'as Friends, t'auras jamais I Met Your Mother. T'auras plein de comédies avant, t'as MASH, t'as Seinfeld, t'as plein de choses.
C'est pour ça que c'est un classique contre un autre. On n'a jamais dit qu'How I Met était un classique.
Voilà, c'est pas là-dessus. D'accord, je sais pas, parce que vous entendez, j'étais pas convaincu.
Sinon, tu gagnes tout le temps avec cet argument. Si on fait un classique versus un nouveau, à chaque fois, tu diras c'est le pionnier. Argument un peu facile.
Non, parce que How I Met, ça a quand même quelques années et c'est pas une série qui a marqué au point d'influencer profondément.
En même temps, Marion le disait par rapport au cinéma, Very Bad Trip, tout ce système de narration, c'est parti aussi du phénomène How I Met Your Mother, et on a vu que le public était capable de suivre une narration conceptuelle comme ça. Ouais, je vous sens que la moelle. Alors, ça tombe bien, c'est le moment là de prendre parti. Alors, je vous demande, Charlotte, Friends ou How I Met Your Mother?
How I Met.
How I Met.
Eric.
Friends.
Et c'est la victoire.
Renan.
Moi, ce serait. Et non, je ne prends pas parti, sinon, s'il y a une égalité, c'est donc la victoire de How I Met Your Mother.
Yeah!
On passe tout de suite à une nouvelle battle. Vous aurez reconnu le générique cryptique de Lost, la série de J.J. Abrams qui a tant fait parler, une île pas si déserte, Jack, Kate, Locke, Sawyer, des théories partout, des twists tout le temps. Mais contre quoi affronter ce mastodonte de la pop culture signé Damon Lindelof? Eh bien une autre série de Damon Lindelof, alias The Leftovers, qui en trois saisons a mis une partie de la critique KO, un deuil national des personnages affligés, un mystère mystique. Alors une battle auteur, Lost versus Leftovers. Je vous demande, chers amis, votre avis. La battle commence. Alors Marion, on commence. Lost ou Leftovers?
Ben, moi je suis plutôt Lost.
Pourquoi?
Ben, parce que Lost, ça s'intéresse aux gens qui sont disparus mystérieusement et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Mmh. The Left s'intéresse à ceux qui restent et comment ils gèrent leur deuil. Ben, moi, je trouve ça plus divertissant de me demander où sont passés les cocos,
ouh,
tu vois.
Elle marque un point, là, effectivement. Voilà. Eric, je sais que c'est vraiment la battle qui... C'est vraiment le choix de Sophie, là. C'est...
Ouais, alors... Moi, je suis plutôt Lostovers.
Non. On a dit pas de Suisse ici, on prend parti.
Je prendrai parti à la fin, suivant vos arguments. Mais c'est vrai que c'est deux séries que je trouve extraordinaires. Vraiment les séries qui m'ont le plus marqué ces 15 dernières années, c'est le même auteur. C'est vrai que là j'ai eu des frissons quand même avec la musique de Leftovers.
Donc plutôt Leftovers.
Sur la musique, ouais, c'est vrai que la musique, mais il y a des sites internet, je sais pas si vous avez vu avec la musique de Leftovers, où ils mettent la musique de Leftovers sur plein de séries et ça marche à chaque fois, ça file des frissons.
Ah oui, quand même. Charlotte.
Moi je suis Leftovers.
Ah oui.
C'est pas je suis Leftovers contre Lost, c'est je suis Leftovers contre quasiment toutes les séries.
À ce point-là.
Ouais. Donc bon bah.
Mais
Lost
alors comment convaincre
mignonne,
Marion que Leftovers est plus grande que
parce
Lost?
Parce que j'ai adoré Lost. Hein. C'est pas la question. C'est que Lost, j'avais mille raisons de la regarder.
C'est pas la question. C'est papa ou maman, on est obligé de choisir. Hein.
Ah bah alors j'ai choisi pour je ne sais pas qui est Leftovers, mais c'est Leftovers parce que j'ai eu 10 000 fois plus d'émotions en un épisode de Leftovers que tout Lost en fait. On ne m'a jamais autant coupé les jambes que devant The Leftovers. Donc ça, j'ai adoré. Et aussi, The Leftovers a réussi à faire oublier la question qu'on se posait dans la série, alors que Lost l'a posée quasiment en permanence.
Ça veut dire que pour toi, Leftovers est mieux écrit quelque part que Lost?
Pas mieux écrit, mais en tout cas, fait passer les personnages avant l'intrigue. Et c'est ce que j'attends, moi, d'une série. Mais, du coup, Lost, malheureusement...
Lost aussi, je pense, en fait. Il y a une intrigue qui est très, très prenante. Mais en fait, quand tu apprécies vraiment Lost, c'est surtout les personnages auxquels tu t'attaches. Ceux qui ont moins aimé ont reproché, en effet, au fait qu'il n'y a pas les réponses à tout. Mais je pense qu'ils n'avaient pas vraiment compris le sens de la série.
Mais c'est pas ce que je dis. Moi, j'ai eu les réponses à toutes les questions que je me posais dans Lost.
Mais c'est
et
pas,
vraiment,
c'est pas,
j'ai
c'est
adoré
pas l'essentiel.
Lost.
C'est,
bah ouais, mais moi, l'essentiel, c'est un mot, c'est l'émotion. Donc là, Leftovers, mais KO, la terre entière.
Et le
en
We
fait.
Have to Go Back de Lost, pour toi, n'est pas aussi émouvant que...
Et Not Penny's Boat.
Mais si, mais j'ai pas dit que j'avais pas pleuré quasiment à chaque épisode, attention, mais là, il y a un moment, il faut faire un choix, les gars. Ouais. Donc laissez-moi faire mon choix, c'est The Leftovers, et puis c'est tout.
Et est-ce que Lost, finalement, n'a
les
pas eu
les fesses de Justin Theroux. Ah, ah, ah.
Ok.
It's a good point.
Oui, on le tient. Mais est-ce qu'effectivement Lost n'a pas eu un impact un peu plus grand sur la pop culture
si,
que
sûr.
Leftovers? Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle gagnerait forcément?
Bah évidemment, Lost elle a révolutionné la manière dont on écrit les séries aujourd'hui. Il y a encore des séismes de ça. Il y a encore des secondes vagues de ça. Quand on regarde This Is Us, elle est influencée par la manière dont Lost a été écrite. Lost a inventé. Bon, peut-être qu'on. Ah, je voudrais pas dire un truc comme ça parce qu'on ne sait jamais. On peut toujours trouver une petite série des années 60 qu'il avait fait avant. Mais je veux dire. C'est quand même elle qui a popularisé
la narration
du flash forward, du flashback utilisé à toutes les sauces. Et moi, tu me parles d'émotion, mais d'accord, The Leftovers. Mais The Leftovers te fait chialer à chaque épisode, mais The Leftovers me rend complètement dépressive. J'ai pas envie de sauter par la fenêtre à chaque fois que je regarde The Leftovers.
Mais moi, j'écoute les Cure depuis 20 ans, ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai besoin de ça.
Lost m'a donné des émotions différentes et plein d'émotions différentes. Alors que The Leftovers ne m'en donne qu'une, la tristesse incommensurable. Alors que quand je regarde Lost, je suis complètement le nombre de twists qu'il y a eu, mais ça m'a scotché et ça m'a aussi coupé les jambes d'une autre manière.
L'écriture, le côté aventure, twist est plus forte dans Lost que dans Leftovers. Ça, c'est
évident. Il n'y a pas d'aventure. La mythologie, elle est complètement dingue.
C'est ça. Est-ce que la mythologie de Lost est plus forte pour toi que celle de Leftovers avec ce mystère des gens qui ont disparu et puis ce mystère mystique en fait.
Évidemment.
C'est voulu d'ailleurs. C'est parce qu'il a voulu épurer. Il a fait Lost en épurant la série en virant en effet tout ce qui était parasitaire entre guillemets. Pour en effet se concentrer vraiment sur 3-4 personnages qui étaient très forts dans Lost, c'est qu'il y avait aussi une multitude de personnages qui étaient très différents et ils étaient nombreux à nous émouvoir. C'est-à-dire que vraiment sur des... Il y a tellement de thèmes, alors que c'est vrai que dans Leftovers, c'est quand même surtout sur le thème de la perte de l'être cher, alors que dans Lost, il y a énormément de thèmes qui sont évoqués, la trahison, l'amour, la camarade. Il y a plein de choses.
Donc si je résume, Leftovers pour Charlotte serait plus profond émotionnellement et pour vous, Lost serait plus profond thématiquement. C'est ça l'idée?
Eric, il pense que les personnages sont aussi profonds émotionnellement, je pense. Hein, que...
Mais Eric, il va devoir choisir.
Parce que moi, je dirais que les personnages... En fait, c'est un argument un peu... Mais bon, déjà, sans Leftovers, sans Lost, il n'y a pas Leftovers. Et ensuite, le truc a été épuré.
Qu'est-ce
pour...
Qu'est-ce qu'on
a
dit à 5 minutes?
Oui, je sais, pardon. Ouais, ça, quand c'est moi qui argumente, du coup. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ouais, The Leftovers est très épuré, mais Lost, dans sa... dans sa folie narrative, tu t'attaches à la fois au personnage, mais parce qu'il y a aussi deux fois plus de saisons, hein. Enfin, il y a six saisons. Et aussi, Lost a débloqué un truc dingue, quoi. Les théories de fans qui ont commencé sur Reddit. Maintenant, il y a des séries comme Game of Thrones, comme Westworld, qui ont été les successeurs de ça. Mais je crois que Lost a quand même été une des premières séries aussi où c'était complètement la folie, quoi. Les fans se sont enflammés.
On rappelle quand même qu'à une époque, Lost était aussi une des séries les plus détestées parce que les gens en avaient marre, on comprenait plus ce qui se passait. C'est-à-dire que on parle de Lost comme un chef-d'œuvre, c'est aussi un chef-d'œuvre plein d'imperfections, plein d'un créateur qui se barre très vite aussi. On rappelle que J.J. Abrams a quand même quitté le navire très tôt.
Il quitte tous les navires.
Il a des bateaux à prendre, voilà. Oh. Mais en gros, c'est quand même un chef-d'œuvre, en tout cas à vous écouter, plein de défauts.
Mais c'est ça qui est beau aussi dans les chefs-d'œuvre des networks, parce que là on parle d'une série qui est diffusée sur HBO, une autre qui est diffusée sur ABC. Mmh. Les chefs-d'œuvre des networks, ils sont rarement parfaits parce qu'ils ont duré tellement de saisons qu'il y a toujours des petits moments, mais là, des petits moments de down. Je sais qu'il y a la fameuse saison 3 qui a perdu tout le monde pour Lost, mais ceux qui sont restés, mais ils ont été mille fois récompensés. Moi, la saison 5 où ils se retrouvent dans les années 70, mais j'étais waouh, mais qu'est-ce qui se passe les gars? Enfin, c'était génial.
Sauf qu'on peut répondre à la même chose sur la saison 3 de Leftovers, qui a un peu laissé les gens de côté aussi, non? Charlotte.
Bon, les cons, pardon. Oh la meuf, tellement pas sympa.
Oh là là.
Non, mais Leftovers a laissé des gens sur le côté, saison après saison. Elle est difficile. Et il faut peut-être être un peu avec une carapace pour regarder Leftovers. Elle est moins facile à regarder. Après, Lost, à l'époque, quand on la regardait à son époque, on était tous à fond dedans, on pouvait en parler à des gens et tout. Mais j'imagine que des gens qui aujourd'hui se mettent à regarder Lost, qu'ont personne avec qui discuter, tout le monde qui fait « Quoi, tu regardes Lost? Mais je l'ai fini à 10 ans, t'es gentil, dégage. » Enfin, pour moi, c'est une série que tu regardais dans l'air du temps, dans le zeitgeist, dans la conversation. Aujourd'hui, je me sentirais super seule de regarder Lost. En revanche, The Leftovers se regarde seule.
Ça veut dire que pour toi aussi, The Leftovers passera les époques et Lost est le résidu d'une époque.
Mais elle est intemporelle. Leftovers, on pleurera toujours nos disparus. Point.
Eric, est-ce que ça t'a un peu convaincu tout ça?
Alors ouais, je vais quand même choisir Lost.
Et voilà, bam, boum, bim.
Non, mais j'adore les deux, mais bon, il y a un aspect nostalgique en effet qui joue. Et c'est vrai que la différence quand même pour moi, c'est que Lost à l'époque, je me rappelle, j'attendais les épisodes. Mais c'était un truc de fou, quoi. Quand il y avait le nouvel épisode de Lost, c'était un truc de fou. Fallait le regarder tout de suite. Putain, l'épisode, je crois que ça m'est jamais revenu à ce point-là depuis.
Mais Leftovers. Aussi, c'est qui marche bien.
Leftovers, quand même, j'avais moins ce besoin d'avoir, cette impatience d'avoir le même si au moment de le regarder, en effet, ça me touchait énormément. J'avais pas ce besoin absolu de l'avoir là tout de suite, comme de la drogue, quoi. En fait,
oui, pour moi, Lost, Marion, c'était. Tu savais que t'allais souffrir. Tu savais quand t'allais regarder Leftovers que t'allais souffrir. Ah, oui. C'est pas un truc, moi non plus, et tu vois, c'est vraiment une de mes séries préférées, c'est presque ma série préférée, mais je savais à chaque fois que je commençais un épisode, ça allait être la douleur, quoi.
Non, mais ça va le sadomasochisme.
C'est ça, mais...
ça fait partie de la vie. C'est comme
oui,
ça.
Oui, non, c'est vrai, mais Lost
nous a fait souffrir aussi, hein, quand
ah,
même.
Oui, 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 c'est clair, elle était cruelle par moments, Lost, mais en fait, le côté divertissant, le délire dans l'île, enfin, quand je pense à Lost, je pense à plein de scènes différentes, quoi.
Donc d'un côté, le trop plein, et puis de l'autre côté, un truc très resserré, très intimiste. Oui. C'est en gros, l'affrontement, il est là.
Mais là où je suis pas d'accord d'ailleurs, c'est que Lost, moi, je connais des gens qui sont en train de le revoir maintenant, hein, et de le redécouvrir, et en fait, tu lances un point final de Lost ou juste un point Lost, hein, une soirée, mais les gens ils s'écharpent pendant. Ça nous est déjà arrivé au sein de la CS en plus. ça part en sucette pendant trois quarts d'heure, je veux dire.
Mais
ça,
Lost, on en parlait toutes les semaines.
Leftovers, tout le monde se prend par la main, se fait des câlins,
exactement.
Tout ça, pleure.
Et pleure, c'est mort. Donc, bon.
Mais non, parce que t'as toujours quelqu'un pour te faire, ouais, c'est trop triste pour moi.
Allez, verdict, Charlotte, tu n'as pas changé d'avis sur Leftovers. Marion.
Lost.
Eric.
Bah, Lost.
Et donc, victoire de Lost.
Yeah.
Allez, on finit un troisième round 100% féminin. C'est l'une des séries phares des années 2000, signée Mark Cherry. Les Desperate Housewives ont dézingué le soap et l'Amérique à grands coups d'humour méchant et de drama scotchant. Sur ces quelques notes, on reconnaît que ces nouvelles Desperate Housewives-là sont jouées par la crème des actrices hollywoodiennes. En même temps, en une saison, Big Little Lies est devenue la nouvelle série qui vous fait regarder vos voisins, voisines avec inquiétude. Alors je vous demande, Desperate Housewives l'ancienne ou Big Little Lies la nouvelle? La battle commence. Eric.
Alors moi, ce sera Desperate.
C'est ton côté désespéré, c'est ça.
Peut-être. Ben, c'est quand même aussi plus drôle, déjà, Desperate. Non, ouais. Mais c'est peut-être une série moins bonne que Big Little Lies. En effet, elle est complètement imparfaite.
Mais tu commences mal, Eric, là. T'es censé la défendre.
C'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que il y a des moments what the fuck, il y a des saisons qui sont beaucoup moins bonnes que d'autres. Ça part dans tous les sens. Il y a des très grandes réussites et des points vraiment faibles. Alors que Big Little Lies, elle est presque trop parfaite. En fait, il y a un côté lisse, froid, qui moi me laisse un peu en dehors. Alors que j'apprécie en fait l'imperfection de Desperate.
Marion.
Non, je veux dire, tu m'as volé mon argument de l'imperfection quand on parle des séries de network. Ça marche aussi avec Desperate, c'est vrai. Moi, je suis plus team Big Little Lies. Ouais. Parce que pour moi, Big Little Lies, elle a vraiment transcendé le cliché de la mère au foyer, dont on se moquait gentiment, mais avec tendresse. Et en fait, je trouve que ça renversait pas beaucoup la vapeur en vrai, en termes de code, du cliché, voilà, de la mère au foyer. On avait Gabi qui était obsédée par l'argent, le jardinier. On en avait une qui était une maman qui doit gérer 6 gamins. Enfin, Big Little Lies, je trouve, elle est plus... elle est un peu plus sérieuse, c'est vrai, mais moi je trouve qu'elle a des moments très drôles. Et déjà, enfin, les actrices qui interprètent qui sont dans Big Little Lies, Reese Witherspoon, je la préfère 1000 fois à Eva Longoria, quoi.
Charlotte.
Moi, je suis Big Little Lies aussi.
Ah, bon, ok.
Pourtant, j'ai un très bon souvenir de mon visionnage de Desperate, mais déjà, je l'ai pas fini. Donc ça, c'est mauvais signe, parce que y a pas beaucoup de séries que j'ai pas fini. Mais je trouve que si Desperate Housewives, tu lui enlèves son côté thriller, t'en as plus rien à foutre. Or, Big Little Lies, j'aurais presque envie qu'on m'enlève le côté thriller, parce que ces femmes sont tellement bien écrites et tellement bien incarnées qu'elles me suffisent, en fait. Je peux les regarder 10 ans, ça me va très bien. Je trouve vraiment que Desperate, les personnages sont tellement stéréotypés. Ouais. Et en plus, elles évoluent franchement pas beaucoup.
Est-ce que c'était pas justement la singularité et la force de Desperate Housewives d'avoir une écriture comme ça très nouvelle, à la limite entre l'ironie, la méchanceté? C'est quand même ça qui était très nouveau. Big Little Lies, on est quand même dans le sérieux, dans l'auteur. Il y a un truc beaucoup plus déconnant dans Desperate Housewives qui me semble être plus nouveau.
Desperate, quand même, ça a été une des premières. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'autres qui mêlent en effet la comédie, le soap et le thriller. Moi, je trouve pas qu'il y ait de points vraiment faibles dans ces trois. Je trouve que la série marie parfaitement ces trois points.
Le thriller, on en parle. L'avion qui s'écrase au milieu de Wisteria Lane, mais tu rigoles.
À l'époque, on était fous.
C'était sopesque. Mais voilà, elle a fait la masse de Jump the Shark. Enfin, c'est...
Oui, oui.
Mais est-ce que c'est pas ça qui était beau dans Desperate Housewives, justement, alors que Big Little Lies, on est quand même dans un truc un peu compassé, un peu très écrit, pas du tout. Tout à l'heure, on parlait de Lost, justement, qui délirait. Là, est-ce que c'est pas un peu trop sérieux, Big Little Lies?
Desperate, si t'aimes les intrigues qui partent complètement dans du grand n'importe quoi, oui, regarde, mais comme tu regardes aujourd'hui Riverdale ou voilà, les jumeaux maléfiques et les trucs, enfin, si t'aimes bien les rebondissements sopesques, ouais, tu t'éclates en regardant Desperate.
Oui, mais moi, je m'éclate pas. En effet, c'est un soap. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas qu'un soap. Moi, je trouve que la première saison, l'aspect thriller est très très bien mené. Après, il y a des moments où c'est n'importe quoi, où tu te dis, là, ils sont allés trop loin, ils ont vraiment déconné, mais t'as quand même...
C'était surtout très ironique, c'est-à-dire que on se souvient que quand la série est sortie, c'était chacun à son petit secret d'alcôve, et c'était une manière de montrer l'image parfaite de l'Amérique, et de montrer que derrière la porte des gens, bah, il y avait soit quelqu'un enchaîné au fond de la cave, elles étaient toutes cinglées, enfin, Brie Van de Kamp, c'est quand même... aujourd'hui, alors qu'on reparle de la NRA, Brie Van de Kamp, c'était l'incarnation de la NRA complètement folle.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'elle s'était complètement enfermée dans sa bulle. Tu vas pas me faire croire que sur 15 baraques, t'as des tueurs en série, des fous, des gens enfermés dans... Oui, mais c'est ridicule. Et moi, j'ai eu l'impression, ça a duré 8 ans, je crois, Desperate Housewives. Pendant 8 ans, ils n'ont jamais regardé la rue d'à côté de Wisteria Lane. Mais, et au bout d'un moment, cette espèce de truc qui tourne en rond, c'est crevant.
Non, c'est le principe de... Mais à ce moment-là, tu désingles les 9 dixièmes des séries. En effet, les flics, il n'y a pas des meurtres toutes les 5 minutes. Il n'y a pas un inspecteur qui va être sur 15 crimes en série.
Il y avait une stylisation quand même là-dedans. Non, enfin, j'ai l'impression que quand même, Big Little Lies, on est dans le cinéma d'auteur aujourd'hui, adapté en série. C'est Jean-Marc Vallée, donc cinéaste, qui refait avec des actrices qui viennent faire un peu leur numéro, non ?
Il y a quand même un côté, c'est quand même David Ikelet qui a adapté ça, et c'est un grand monsieur des séries télé. C'est le monsieur qui a fait Ally McBeal notamment. Donc il a un regard sur les femmes, et moi je trouve que l'écriture, elle est sérielle, elle est sérialisante, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai pas l'impression de regarder un film. C'est juste que, oui, en termes de réalisation, si tu aimes les belles réales, en termes de de réalisation des épisodes, c'est comparable à ce qu'avait fait True Detective à l'époque dans un autre genre, quoi. Donc oui.
La question que je vais vous poser sur Big Little Lies, c'est on part sur une saison 2 qui n'était pas au départ prévue. Est-ce que c'est pas là où la série va s'effondrer sur elle-même ?
Ben ça, on verra l'année prochaine. Après, est-ce qu'on a envie que Big Little Lies dure 8 ans ? Non. On n'a jamais dit qu'on avait envie que Big Little Lies dure 8 ans.
Enfin, est-ce que c'est pas un problème ? Parce que Desperate, on avait envie que ça dure.
Non.
Bah, si. Ah bah,
non,
si.
Au bout du troisième, la troisième catastrophe climatique improbable, de la tornade aussi,
ah ouais, non, mais
qui s'est abattue uniquement sur Wisteria Lane.
Bah, ils ont
non,
pas de bol, il y a un microclimat.
Non, mais au bout d'un moment, c'était ridicule. Et, et personne, aucun personnage, à part peut-être Lynette, n'était assez fort pour qu'on ait envie juste de rejoindre les personnages.
Oui, en même temps, ça abordait des sujets qui étaient quand même assez étonnants pour l'époque. On se rappelle qu'on était plutôt au début des années 2000. Ils affrontaient la question notamment du cancer, de l'infidélité. Petit à petit, on s'est mis à raconter aussi des histoires. Alors avec encore une fois des pincettes, mais sur le racisme aux États-Unis, toujours sur un ton décalé, ironique,
sur l'homosexualité, sur plein de choses.
Est-ce qu'elle a pas été plus
parce que maintenant ça paraît normal que il y ait des héroïnes femmes, mais à l'époque que les hommes étaient des lavettes dans Desperate Housewives. Que les hommes soient à ce point-là des lavettes et que tous les personnages forts soient des femmes, c'était quand même assez rare.
Ah, mais ça sauve pas une série, ça,
non,
Coco.
Non, et puis des femmes blanches magnifiques, Terry Hatcher,
enfin... Physiquement, mais oui, mais non, Big Little Lies, elles sont moches, peut-être.
Je trouve que...
C'est quand même Nicole Kidman.
Il y a Shailene Woodley qui déjà ressemble à nous.
Il y a je trouve que c'est quand même un peu plus divers. Il y a Zoé Kravitz aussi, qui a un rôle un peu plus secondaire. Laura Dern, c'est pas non plus, enfin, elle est pas connue pour être Eva Longoria, quoi, en termes de canon de beauté hollywoodien.
Est-ce que Desperate Housewives n'était pas plus intéressant parce qu'elle ironisait sur la beauté de ses actrices, alors que...
Elle ironisait pas. Je suis désolée. Aujourd'hui, avec notre regard, entre guillemets, d'adulte, elle ironisait. Mais quand t'étais une nana qui regardait Desperate Housewives, il y avait toujours un moment tu te disais je suis dégueulasse, je suis grosse, faut que j'aille me racheter des fringues, et où tu te sentais mal. Moi je ne veux pas me sentir complexée par une série, et je me sens pas complexée par les nanas de Big Little Lies.
Nicole Kidman qui est juste sublime avec une espèce personne n'existe comme Nicole Kidman, cette femme n'existe pas, on va le dire une fois pour toutes. C'est un CGI dans la série, elle a quand même une espèce de corps improbable.
Non mais vu ce qui lui arrive, et puis en fait les corps sont pas mis en avant de la même manière dans Big Little Lies que dans Desperate. Voilà, dans Desperate c'est sexualisé, et une autre chose qui me dérange maintenant rétrospectivement, c'est aussi que ça joue là-dessus sur le côté Real Housewives, une série de une télé-réalité de l'époque qui était un peu dans le mode désespéré, c'est-à-dire que c'est du bitchage non-stop entre meufs. Et dans Big Little Lies, je trouve que pour moi c'est pas du bitchage, elles s'engueulent sur la manière dont éduquer les enfants, il y en a une qui pense que c'est le gamin de l'autre qui tape, mais en fait il y a vraiment solidarité, une vraie alliance féminine en fait dans Big Little Lies que tu retrouves, que je trouve un peu fake dans Desperate.
Non, mais la déformation de Desperate,
tu vas y arriver.
Non, mais c'est que moi, quand Big Little Lies a commencé, à cause de Desperate, j'ai cru que les nanas, que Madeline et Nicole Kidman, je sais plus comment elles s'appellent, j'ai cru qu'elles allaient se détester, manipuler et machin. Et j'ai mis 4 épisodes à me dire, ok, elles sont potes, elles sont bienveillantes, tout va bien, il y a pas de jalousie, c'est cool.
Bon, tout va bien, ça.
Il y a des prises de tête.
L'amitié féminine et dans notre inconscient, inspirée par Desperate et par ce côté, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu machin, t'as vu truc. Or, dans Big Little Lies, c'est une véritable amitié féminine.
Il y a d'un côté un drame et de l'autre côté une comédie. On peut pas reprocher à une comédie d'être en effet caricaturale et de dire qu'ils en font trop, etc. C'est le but de la série. En effet, c'est le pitch de la série dès le départ. C'est que ça va être over the top, que tout va être... Alors si dès le départ on se dit « Ah bah c'est pas crédible, ça marche pas », en effet, il faut pas regarder. Faut s'arrêter dès le premier épisode.
Exactement. Est-ce que le problème de Big Little Lies, c'est qu'elle se prend pas un peu trop au sérieux ?
Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on dit « True Detective », elle se prend trop au sérieux ?
Ah oui,
une bonne série, c'est une bonne série. Ah, toi, tu le dis, mais toi, t'es bizarre. Toi, d'abord, tu veux pas prendre parti. Donc, je suis désolée, ton avis aujourd'hui, je m'en fous.
Moi, je trouve pas qu'elle se prend trop au sérieux. Il y a des moments où vraiment elle me fait rire, notamment le personnage de Reese Witherspoon. Elle a plein de dialogues très drôles. Moi, dans ma tête, en fait, Big Little Lies est un peu plus dramatique que comique, mais il y a du comique. Et Desperate est beaucoup plus sopesque et comique, et avec un poil de tentative de drama. Mais bon, justement, en fait, les dramas, ils sont faibles, en fait, par rapport, vu que la dose de comique, elle est énorme dans Desperate, on n'y croit pas après. Quand Gabi, elle verse toutes les larmes de son corps parce qu'elle doit rendre un bébé qui devait, à la base, ne lui appartenait pas. Enfin,
mais c'est la vie!
Je crois pas. Voilà, ça m'est arrivé hier d'ailleurs.
Exactement.
Moi, ce qui me dérange aussi un peu dans Big Little Lies, c'est que c'est une série pour gagner des prix. Ça m'emmerde, c'est-à-dire que tu le sens. Les actrices, elles sont là pour gagner des Golden Globes. Alors, pour la saison prochaine, on annonce
Meryl Streep,
alors c'est super, tout le monde est... moi ça me gonfle ça, côté ah bah voilà, Meryl Streep, l'actrice qui gagne tous les prix pour gagner encore un autre prix et être appréciée des critiques.
C'est une machine à hauteur, en fait. C'est une machine à Oscar, une machine à Emmy, plutôt.
Voilà. C'est une machine à Emmy, à Golden Globe, etc.
En train de reprocher à une série d'être bonne, en fait. Enfin, elle est tellement bonne qu'elle a des prix.
Penser au prix, avant tout. C'est-à-dire que cette série, elle a été faite, en effet, HBO s'est dit, ah ben là, on va gagner des Emmy Awards et des Golden.
Des infos qu'on n'a pas, hein, parce que nous, on n'y était pas, cette revue d'HBO, là. Hein.
Moi, j'y étais. Je te le dis.
Bon, je suis désolé, Eric, j'ai oublié de demander le verdict. Charlotte, Big Little Lies. Marion.
Big Little Lies.
Eric.
Ah bah, Desperate.
Et victoire de Big Little Lies. Désolé, Eric. C'est la fin de cette émission spéciale Battle des classiques. Merci Eric Bush, Marion Holliday et Charlotte Blum d'avoir fièrement mené combat. Merci également à Quentin d'avoir arbitré avec moi ce match. Un épisode et j'arrête, revient la semaine prochaine évidemment. D'ici là, retrouvez-nous sur tous vos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et abusez des bonnes séries.
Next one. Whoa, wait. That's the last one.